Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Ce point est crucial. Il objective tous les autres rapports politiques que je vais maintenant énoncer. Objectif, cela veut dire, il donne valeur de nécessité à tout ce que je vais dire. Nécessité, au sens où on l'utilise dans le vocabulaire philosophique, qui ne peut pas ne pas être. D'obligation, en quelque sorte. S'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, il y a donc un intérêt général humain. Il y a un intérêt général humain parce que nous sommes tous semblables, parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Dans ces trois phrases-là, vous avez les trois doctrines qui ont animé le mouvement progressiste. S'il n'y a qu'un seul écosystème et si nous sommes tous semblables, alors l'intuition fondamentale de l'égalité politique est vérifiée objectivement. Deuxièmement, si nous sommes tous semblables et qu'il y a un intérêt général humain, la question de savoir comment on trouve cet intérêt général humain est prioritaire. Mais surtout, ça affirme que s'il y a une condition humaine unique, qu'il y a un intérêt général humain unique, il y a donc une condition humaine unique, et que tout être humain peut y accéder. Et pas seulement du point de vue de ses intérêts de classe, mais en tant qu'être humain. Ce qui veut dire que les idées sont bien sûr la projection des conditions sociales dans lesquelles se trouvent placés les individus, bien sûr, mais que pour autant, elles ne sont pas réservées aux individus qui ont le plus à pâtir du système. Et donc, pour nous, pour les stratégies politiques, pour les programmes, nous avons à rechercher de quelle manière unifier à l'intérieur du projet éco-socialiste la totalité de ceux que nous pouvons interpeller en tant qu'êtres humains. Cette idée, on va l'approfondir dans un instant. Je reste donc, il y a un intérêt général humain, comment le trouver? Par l'unique moyen dont nous disposons, notre sensibilité et notre raison. Par conséquent, nous postulons que nous ne sommes jamais sûrs d'avoir trouvé la bonne réponse. La définition de l'intérêt général humain est toujours provisoire, limitée et réversible. Il ne faut prendre que des décisions réversibles, du point de vue de la philosophie qui inspire l'écosocialisme. On voit donc que dans certaines décisions, quel que soit par ailleurs l'intérêt qu'elle pourrait présenter pour tel ou tel d'entre nous intellectuellement, on ne doit pas prendre de décisions qui sont irréversibles. Quand on met en route une production d'énergie, si sûre qu'elle soit, si garantie qu'elle soit de toute sécurité, comme le nucléaire, le simple fait que les déchets ultimes ne sont pas réversibles avant plusieurs millénaires nous interdit d'y avoir recours. Non pas par responsabilité de l'instant, mais par responsabilité sur la durée du temps long. L'intérêt général humain ne peut être trouvé que par notre raison, encore faut-il la construire. D'où l'importance essentielle de l'accès à l'éducation. Et si nous devons la construire par l'éducation, il faut que nous puissions le faire librement. On ne délibère pas librement si les uns dominent les autres. La délibération libre est celle qui se fait entre égaux. Il n'y a pas de délibération libre sur l'avenir de telle ou telle situation entre gens où l'un domine l'autre et où les intérêts de l'un, évidemment, dominent ceux de l'autre. Que ce soit dans l'ordre général des catégories sociales ou dans l'ordre particulier des relations humaines entre hommes et femmes. Et ensuite, dans l'arène politique, lorsqu'on vient à choisir entre des programmes, chacun d'entre nous est appelé non pas à dire ce qui est bon pour lui, ce qui est la démocratie, on lève la main, et 51 ont raison sur 49. C'est absurde. Mais c'est la règle qu'on s'est donnée. Il en faut bien une. On peut décider que c'est pas 51, on peut décider que c'est 52. Mais n'empêche, à un moment donné, c'est le nombre qui va déterminer la décision. La décision, pas la conviction. La démocratie n'a pas à former des convictions. Une fois qu'on a décidé, on applique parce qu'on respecte la règle. Nous nous soumettons à des lois absurdes et injustes et nous les combattons pour qu'elles changent. Mais nous nous soumettons à elles. Chaque citoyen est appelé non pas à dire ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous. La citoyenneté, c'est dire ce qui est bon pour tous et exercer le pouvoir de dire ce qui est bon pour tous. Et ce qui est bon pour tous, c'est la République. C'est la chose commune. Voilà comment s'enchaîne l'intuition fondamentale du communisme, qui est de dire qu'il y a des biens communs, à commencer, sans entrer dans les détails, par l'écosystème. C'est un bien commun par définition. Donc il existe bien des biens communs inaliénables. qui fondent un intérêt général. Vous avez compris le revers. L'intérêt général doit donc toujours être supérieur aux intérêts privés, il passe avant, ou aux intérêts particuliers. Voici donc fondée l'idée de la loi qui s'impose contre l'ordre spontané des relations mécaniques, du libre-échange, de la concurrence libre et non faussée, de la loi, etc. Ça, c'est l'intuition républicaine. Et puis, on ne peut délibérer librement que si on est égaux. C'est l'intuition du socialisme en général. Voilà comment nos trois doctrines peuvent converger dans la construction philosophique de base de l'écosocialisme. L'écosocialisme, c'est donc pas les pages écologiques du programme socialiste. C'est la reconstruction de l'ensemble de la pensée socialiste et communiste, pour me référer aux idéologies progressistes immédiates. J'ai oublié de citer l'anarchisme, parce que ça m'amènerait à une trop grande promiscuité intellectuelle avec, parce que moi je me sens plutôt libertaire de nature. Je l'ai découvert assez tardivement, mais comme je ne supporte pas qu'on me donne des ordres, j'en déduis qu'il y a plus de monde que je ne le croyais, qui doit être dans le même état que moi. Mais je pense que l'intuition libertaire, elle est fondée par ce que je viens de dire. C'est une aspiration à une radicale liberté intellectuelle personnelle et à une domination de soi sans concession. Voici formulée en quelques mots la doctrine de l'écosocialisme. À quel prix est-elle possible? C'est nécessairement au prix d'une révolution. On ne peut pas imaginer une transition volontaire de l'ordre actuel avec la domination des intérêts particuliers qui s'y expriment sans aucune retenue à l'heure à laquelle nous parlons. Et un peu plus dans notre pays aujourd'hui qu'hier. On ne peut pas imaginer que le changement se ferait par consentement éclairé. Les sociétés restent le lieu du conflit d'intérêts. Et c'est donc à l'intérieur de ce conflit qu'il faut proposer les solutions qui sont perçues par le grand nombre comme correspondant à l'intérêt général, mais en même temps qui nous permettent d'aller jusqu'au bout. Je parle donc de révolution citoyenne. Je demande, je suis obligé d'aller aussi vite que je peux, qu'on ne croie pas qu'il s'agit d'une euphémisation communicationnelle de la révolution socialiste que je vous resservirai dans un emballage plus frais pour vous la faire avaler plus facilement. La révolution socialiste met à l'ordre du jour les tâches socialistes. La révolution citoyenne met d'autres tâches à l'ordre du jour, notamment les tâches du programme écologique, qui ne correspondent pas toujours à l'ancien programme socialiste et qui peuvent le contredire, notamment sur l'idée de la croissance sans fin ou de toute technique et bonne par essence sans qu'il y ait besoin d'en délibérer. Libérer le mot révolution de son fatras d'imagerie d'épinal qui n'appartient pas à la tradition de gauche, qui est en général la caricature qu'en ont fait nos adversaires. Alors, les hommes hirsutes et à moitié nus qui bondissent avec des femmes dépoitraillées sur des barricades en se tirant des coups de fusil avec les autres et qui rêvent d'aller se flanquer des coups de bâton, ça n'a jamais été le programme de la révolution socialiste nulle part, à aucun endroit du monde. C'est une révolution quand on change les institutions. Et quand on change, qui a le pouvoir? Deuxièmement, c'est une révolution quand on change l'ordre juridique. Et l'ordre juridique de l'écosocialisme place au premier plan la solidarité et au dernier plan la compétition. C'est enfin une révolution dans l'ordre de la propriété. Car sans entrer dans la question de savoir s'il faut tout prendre ou pas, ce qui est absolument certain, c'est qu'un certain nombre de choses doivent être prises et ramenées au collectif et au commun. Comme les biens de première nécessité, je n'en citerai qu'un, l'eau. Mais on pourra dire bientôt l'air. Et par conséquent, tout ce qui a besoin d'air pourrait être très rapidement réexaminé. Et en tout cas, l'énergie, qui ne peut pas être une production privée, puisque la production privée est indifférente aux moyens qu'elle utilise. Voilà en quoi c'est une révolution dans les trois directions, institutionnelle, juridique et l'ordre social de la propriété. Elle est citoyenne, ce mot est essentiel. Toutes les révolutions dans l'histoire, vous les avez regardées. Moi, je ne parle pas pour les plus jeunes, je ne sais pas comment vous regardez. Mais nous les avons tous regardées pendant longtemps comme des préfigurations des révolutions socialistes. Nous en apercevions le contenu social. Nous disions les conditions n'étaient pas réunies pour aller jusqu'au socialisme. Par exemple, si on examine la révolution d'Étienne Marcel, personne n'imagine que sous Charles V, on aille proclamer le socialisme. Le niveau de développement des forces productives, des relations sociales ne le permettait pas. Il y avait des formes de communisme primitif pourtant à cette époque. Mais c'est une révolution, et on l'a regardé comme ça, on apercevait son contenu social. La révolution citoyenne, c'est celle qui met à l'ordre du jour les tâches d'intérêt général et utilise les méthodes du socialisme pour les accomplir, les intuitions du communisme pour les comprendre, et les méthodes qui sont celles de l'écologie politique pour les régler. Mais ça nous permet de regarder d'un œil nouveau tout ce qui s'est passé avant nous, et d'en voir la préfiguration. Et on peut se dire d'une certaine manière que toutes les révolutions du passé sont des révolutions citoyennes, c'est-à-dire qui mettent à l'ordre du jour le pouvoir du grand nombre sur la chose collective, quel que soit le niveau de développement des forces productives de l'époque considérée. Je considère que si vous prenez une révolution du passé et que vous la comparez à celle que vous observez dans le présent, vous en voyez les caractéristiques communes. Depuis les Romains qui se retirent sur l'Aventin parce qu'ils ne veulent plus travailler aussi longtemps qu'ils ne partageront pas le pouvoir avec les nobles et les sénateurs romains, jusqu'à toutes les révolutions du Moyen-Âge, combien sont marquées par cette idée que c'est le collectif qui va décider. Mais aujourd'hui, de toute façon, elles sont citoyennes. Je veux dire que ce sont le fait de populations urbaines, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans ma bifurcation anthropologique. Le monde est urbanisé, fait radicalement nouveau. Jusqu'à il y a à peine 40 ans, la majorité de la population vivait en milieu rural par petit archipel de groupes humains. Aujourd'hui, la majorité de la population, aux alentours du 60%, vit en milieu urbain, c'est-à-dire quotidiennement interpénétré, intercorrélé. Les révolutions du quotidien sont des révolutions urbaines. Et par conséquent, elles prennent immédiatement un aspect d'intensité bien supérieure à celle des révolutions socialistes du passé, où le pouvoir se reconstruisait à travers les conseils d'usine. Toutes les révolutions de notre époque sont des révolutions citoyennes. Celles qui ont eu lieu en Amérique du Sud, sans exception, et celles qui ont commencé dans le Maghreb sous nos yeux, l'ont toutes été. Pour mieux le faire comprendre, je vais prendre l'exemple d'un de mes très bons amis, qui est un des leaders du mouvement sans terre au Brésil. Les gens surgissent à l'impromptu, alors qu'il y a un gouvernement de gauche, et disent « le football, on s'en fout, on veut des transports publics développés. Les stades, on s'en fout, on veut des hôpitaux qui fonctionnent. » Comment les Brésiliens pensent à autre chose qu'à la samba et au football? C'est un peu comme ces Arabes qui, au lieu de se battre pour des histoires de religion, se battent pour obtenir le droit au travail, l'égalité, la laïcité, l'émancipation individuelle. Décidément. Et alors, un journaliste interviewe mon camarade, et alors l'intervieweur lui dit « mais on ne comprend pas, c'est des revendications socialistes et il ne se passe rien dans les usines ». Que répond le camarade? Ils se sont obligés de défendre une doxa, une doctrine. Il dit « ah si, 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 dans telle et telle usine, il y a eu une pétition, il y a des… » Mais ce n'est pas le sujet. À votre avis, qui est dans la rue? Les bourgeois aux mains soyeuses ou les prolétaires aux mains calleuses? Tout le monde, c'est les salariés qui sont là. Mais la forme de leur mise en mouvement est une forme urbaine, citoyenne, qui n'est pas celle de la revendication à l'intérieur de l'entreprise pour un autre partage de la richesse. Il s'exerce à l'échelle de la loi et de la société. Mais tant mieux, 10 000 fois tant mieux, ça veut dire que le niveau d'éducation s'est élevé assez pour que les gens se pensent comme composantes et prenant en charge toute la société et pas seulement un secteur qui est censé libérer tous les autres. L'histoire a été résumée à un aspect. La vision soviétique du monde, c'est-à-dire la transformation révolutionnaire par l'émergence des soviets. Quand la révolution de 1917 a lieu, il n'y a pas que des soviets d'ouvriers, il y en a d'ailleurs fort peu, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, très peu d'usines. Ce sont des soviets de soldats, ce sont des soviets de femmes, ce sont des soviets de paysans, des soviets de quartier. Bon, soviets, qu'est-ce que ça veut dire? Conseil. Qu'est-ce qu'un conseil? Une assemblée citoyenne. Si bien que la base de la révolution citoyenne, c'est l'Assemblée citoyenne, à ne pas confondre avec un meeting du Front Gauche. L'Assemblée citoyenne, c'est les gens s'investissant en commun pour régler en commun les problèmes. Il faut donc respecter l'idée d'Assemblée citoyenne. La base de la révolution citoyenne, ce sont les assemblées citoyennes. C'est pourquoi les assemblées citoyennes faisant la révolution citoyenne se donnent pour premier objet politique le peuple de se constituer en tant que peuple acteur et pas en tant que somme d'individus agissant en faisant une constitution. C'est pourquoi les processus de révolution citoyenne, chaque fois qu'ils ont lieu, doivent donner lieu à une constituante. Eh bien, la discussion qu'il y a là est fondamentale. Qui prend le pouvoir? Le parti révolutionnaire? Il est une avant-garde? Il est une incarnation de la classe agissante qui va se libérer et libérer tous les autres? ou bien le peuple lui-même. Quand on dit c'est le congrès, pas en russe, des soviets, qui doit prendre le pouvoir, on dit c'est le peuple lui-même. On dit c'est l'assemblée des conseils. Et ça, pour moi, dans l'écosocialisme, c'est fondamental. Ça n'est pas les grands révolutionnaires omniscients font une concession à l'adversaire en acceptant qu'il y ait de la démocratie. C'est que nous avons besoin de la démocratie comme moyen de confrontation. Donc nous avons besoin d'une démocratie contradictoire, pas d'une démocratie où tout le monde est d'accord. Nous avons besoin du conflit, nous avons besoin de l'opposition, de la contradiction des points de vue, parce que c'est la condition pour trouver le chemin. Ce n'est pas l'unanimité. Et de même que le conflit crée la conscience, tandis que le consensus l'étouffe et pousse à la routine, de la même manière, c'est le conflit le moteur de la pensée, la contradiction. Ce n'est donc pas une concession, c'est consubstantiel à la doctrine éco-socialiste. Nous avons besoin de la contradiction et de la liberté absolue de discussion. La liberté absolue de discussion veut donc dire le contrôle de ceux qui rendent possible ou non cette discussion. Je veux dire donc des moyens médiatiques. Parce que si nous devons avoir l'indépendance et la diversité de la presse pour avoir le droit de dire tous la même chose, ça n'a aucune espèce d'intérêt pour la démocratie. Et c'est là-dedans que nous vivons, ou à peu près aujourd'hui. Ce point de la révolution citoyenne est l'outil de l'écosocialisme. Il y a une connexion totale entre la doctrine écosocialiste et le moyen qu'elle utilise pour prendre le pouvoir. Et donc de l'outil politique qui rend possible cette transformation. Le parti d'avant-garde ne sert à rien. Nous avons besoin d'un parti éclaireur. Le parti, peu importe la forme, que ce soit un front ou ce qu'on veut. Mais autrefois, pendant des générations, on a réfléchi à ce parti. Le parti qui concentrerait et qui serait l'avant-garde. En plus, professionnel pour certains. Alors, on est arrivé au bout du truc. Nous avons besoin d'un parti éclaireur, c'est-à-dire qui met la lumière sur tous les aspects de la situation. Bien sûr, pour aider à apercevoir ce qui nous intéresse pour avancer dans notre direction, mais qui met la lumière sur tous les aspects. La compréhension appelée par une conscience révolutionnaire, c'est une compréhension large, ouverte, intégrant tout ce que les savoirs de son temps permet d'avoir à l'esprit pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment et discerner. Parce que discerner est une activité intellectuelle qui nécessite des outils. Il ne suffit pas de voir pour savoir. Il faut pouvoir discerner. Il ne suffit pas de regarder pour comprendre. Et des fois, c'est en regardant qu'on ne comprend plus rien. Car la réalité est toujours à deux plans. Le premier, c'est celui de notre sentiment immédiat, de nos sens, de notre imagination spontanée. Et le second est celui de la mise à distance qui permet la compréhension des articulations réelles entre les éléments de la réalité. La compréhension résulte du conflit. Le conflit crée la conscience a besoin de lumière. Et ensuite, nous avons besoin d'un parti déclencheur. Déclencheur, c'est-à-dire mettant à profit ce qu'il est seul capable, oui, d'incarner, la mémoire des luttes, la mémoire du temps qui a passé, l'expérience de ce qui ne sert à rien et le savoir de ce qui sert à quelque chose, le souvenir des personnes, l'apprentissage de l'œuvre des autres, pour se nourrir soi-même et s'agrandir soi-même du travail intellectuel des autres. Donc nous avons besoin d'un parti déclencheur. C'est-à-dire qui, sachant tout cela, propose des opportunités d'entrer dans l'action en direction des cibles que l'on vise. Évidemment, à chacun d'entre nous d'être à la fois sachant, connaissant et stratège. Nous le sommes tous dans notre milieu, tous sans exception. Ça n'a rien de monstrueux de parler de savoir stratégique. Et ce savoir stratégique, c'est ce qui donne de la force. Mais moi, je suis très fier d'avoir pu être ce porte-parole qui dit « il n'y a qu'une consigne, n'attendez pas les consignes ». Et de savoir que j'étais immédiatement compris par tout le monde, parce qu'en effet, personne n'avait besoin de consignes, tout le monde savait ce qu'il avait à faire.